Il suit un chemin assez délicat entre affirmer l'autorité des autres apôtres et pour dire « je suis apôtre aussi, j'ai ma propre autorité qui vient directement de Jésus et j'ai le droit de m'exprimer même quand je ne suis pas d'accord avec ce que les autres apôtres disent ». Et à la fin de la dernière prédication, on est tombé sur le premier argument de fond, quelque part. La question étant, est-ce que les nouveaux chrétiens devraient suivre la loi juive? Et dans le premier argument qui sort, est simplement de dire, pourquoi est-ce que vous allez imposer des choses sur les autres que vous n'avez pas vécues vous-même? Vous avez été sauvés par Jésus, par la grâce, pour vivre dans l'esprit. Pourquoi est-ce que vous allez mettre un fardeau sur les autres que vous n'avez pas eu à porter vous-même? Voilà. Donc, on va sauter quelques versets pour avancer. Amen. Voilà, c'est un peu ça. Oui, oui. Alors, honnêtement, c'est en tant que prédicateur, c'est un choix. Oui, je suis vraiment en Galates actuellement pour différentes raisons. J'étudie pour d'autres raisons. Et c'est vrai, c'est quand on regarde, c'est magnifique et on a envie de s'arrêter sur chaque verset et tout ça. Et il y a des prédicateurs qui auraient fait comme ça et on aurait fini Galates d'ici l'année prochaine. Voilà, j'ai fait le choix d'essayer d'aller prendre un peu les thèmes. Et justement, Galates 3, qu'on peut résumer comme Abraham. Abraham comme notre modèle, qu'est-ce qu'on fait avec ce modèle-là? Voilà, et donc j'ai dit, juste avant le culte, donc là, Laurie m'a fourni le cadre qui est très joli et tout ça. Et ça fait un peu le choc quand on met avec le texte de Galates. Êtes-vous stupide à ce point? Voilà. Mais donc on va prendre quand même quelques textes de Galates 3 et essayer de voir la logique de Paul. Peut-être avant de nous lancer dans notre premier texte, prions. Seigneur, tu as donné ta parole il y a des milliers d'années et ce texte nous arrive par la transmission, par la traduction avec des générations qui ont interprété ces textes. Et Seigneur, le miracle, c'est qu'aujourd'hui, tu nous parles toujours par ce texte. Ton esprit travaille toujours en nous pour entendre ce dont nous avons besoin par ce texte. Alors, que ce soit notre expérience ce matin, que ton esprit souffle et que ce qui est important reste dans nos cœurs pour nous transformer, pour nous aider à agir à ta gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un, si vous arrivez, pourrait lire ce premier texte? Donc, c'est Galates 3, du verset 3 au verset 5. Voilà. Donc là, déjà, on voit l'un des contrastes que Paul fait encore et encore dans ce livre. Il y a esprit et loi. Et aussi, par moments, il fait esprit et chair, notre nature humaine. Mais à chaque fois, c'est l'esprit contre autre chose. Et peut-être, 21e siècle, il faut recadrer un peu ce qu'on veut dire par esprit ou peut-être ce qui est l'essentiel, parce que ça fait plus ou moins un demi-siècle que dans nos églises évangéliques on n'est pas forcément d'accord sur l'esprit, et dans ces discussions là l'esprit, ce sont des choses très visibles. C'est est-ce que je parle en langue, c'est quel type de musique, c'est y a-t-il des guérisons. Et le Nouveau Testament en parle et ce sont des sujets important, mais je ne crois pas que ça soit le centre d'intérêt de Paul dans ce texte. Dans ce texte, on est vraiment dans deux logiques, deux façons de vivre, deux façons de voir son identité. Et donc, pour Paul, c'est vraiment deux routes différentes. Et selon si on part dans le sens de l'esprit ou le sens de la loi, ça change tout par rapport à comment on voit Dieu, comment on voit les autres, comment on va prendre des décisions. C'est vraiment une logique, quelque part, qui est présentée. Et l'argument de Paul est très simple, c'est-à-dire vous avez été sauvés par la grâce, par l'Esprit, c'est Jésus qui vous sauve. Et puisque vous avez commencé comme ça, est-ce que vous voulez vraiment revenir à une autre logique? Une autre logique beaucoup plus dure, beaucoup plus cassant, beaucoup plus un maître qui est beaucoup plus dur que l'esprit finalement. Avez-vous envie de revenir à ça? Et voilà. Et quand il parle des grandes l'esprit qui a fait de grandes choses parmi vous, Bon, on peut imaginer différentes choses. Ce n'est pas précisé. Je n'ai pas de réponse. Oui, j'ai parlé de l'enregistrement de ce que Paul pensait quand il a écrit ce texte. Mais voyons l'ensemble de ce que Paul a écrit. Peut-être on est moins dans les... Il y a eu des miracles, certes. Il y a eu des miracles assez souvent dans l'Église primitive. Peut-être il y a moins dans des choses comme ça. Peut-être c'est beaucoup plus. Là, juifs et non-juifs, vous arrivez à manger ensemble. Ça c'est un truc inimaginable au premier siècle. Et pourtant, ça arrive avec l'Église. Ça fait que les familles sont transformées, que un mari ne bat plus sa femme. Les femmes s'affirment dans l'Église, dans la communauté. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est l'Esprit. Ça, c'est partie de la loi. Ça, c'est quelque chose de radical. Et c'est l'Esprit qui permet de faire ça. Alors, l'un des dangers avec ce texte, c'est qu'on est à 2000 ans. Toute la discussion, c'est oui ou non circoncision. Ce n'est pas un sujet brûlant dans notre Église aujourd'hui. C'est le cas pour la quasi-totalité des Églises aujourd'hui. Et pourtant, Esprit et loi. Je pense qu'il y a un défi là, parce qu'effectivement, si vous êtes chrétien, si vous avez demandé à Jésus d'être votre sauveur, comme Mireille a témoigné, donc vous avez commencé par la grâce. Mais après, la question, c'est comment on marche, comment on fait par la suite. Et je dirais, la loi, pas forcément la loi de Moïse, mais cet esprit de loi arrive assez, ça peut arriver assez vite. Voilà, on dirait pas qu'on a de loi évangélique, mais si vous arrivez dans une église évangélique pour la première fois, on comprend qu'il y a certaines choses qui se font et qui ne se font pas, et on a du mal à se mettre sur un verset biblique, et pourtant c'est comme ça. Et surtout si vous allez entre différentes églises, vous allez voir que c'est différent, mais à chaque fois. Donc voilà, notre façon de parler, ce que c'est un appel patois de Canaan, il y a une certaine façon de s'exprimer, on adopte assez vite. Certains habits qui sont permis ou non, bah rien que le fait, il faut être à l'église et pourquoi pas des études publiques. Comment est-ce qu'on gère l'argent, combien d'argent on met dans la petite boîte à forme de cœur au fond, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est délicat parce que toutes ces choses que j'ai nommées là, il y a du bon dedans, c'est pas méchant, mais c'est une question d'ordre quelque part. Je dirais, la loi, c'est de dire, il faut que je fasse X et Y pour que je sois bon chrétien, pour que je sois accepté, pour que je sois meilleur. Et si je fais bien, ouf, et quand je n'arrive pas, c'est la crainte. C'est un peu ça. L'esprit, c'est de dire, je suis sauvé par la grâce, par ce que Dieu a fait, et c'est tout. Et parce que je suis sauvé, j'ai envie de faire ces choses. Donc, je dirais, voilà, je suis en train de prêcher. Si je fais des prédications pour dire que là, je fais des choses et c'est magnifique, je suis sur une très mauvaise piste. Si en revanche, Dieu m'a sauvé, j'ai envie d'exprimer ce que Dieu m'a donné, j'ai envie de servir, bah, l'acte, à la fin, c'est la même chose, mais la motivation, c'est tout à fait autre chose. Et c'est là où on retrouve Paul. C'est l'esprit qui compte. Soyez libérés de ces contraintes. Je réponds. Être à l'église, c'est très bien. Bon, je prêche aux convertis parce que vous êtes là. Quand je ne suis pas à l'église, parfois ça me manque. Et c'est normal et ça devrait être comme ça. Je pense que Dieu fait en sorte que les bonnes choses qu'on devrait vivre nous manquent. C'est normal. Après, je ne suis pas à l'église, voilà, culpabilité, peur. Ça, c'est une autre réaction. Voilà. Donc, on est libéré par la grâce de Dieu. Et voilà. Et après, pour Galates 3 et 4, c'est deux chapitres où, dans les deux cas, Paul va prendre l'Ancien Testament de deux façons assez différentes et pas forcément comme nous, on aurait fait non plus. Et là, c'est vraiment Paul qui change l'optique sur tout l'Ancien Testament. Donc, quand on parle à des gens d'origine juive, c'est énorme comme projet. Mais quelque part, il re-raconte l'histoire de l'Ancien Testament en disant, en fait, il fallait toujours comprendre cette histoire de cette façon et pas comme vous avez l'habitude de faire. On n'a même pas lu le premier texte. autant pour moi. Si on l'a lu. Oui, donc Abraham, autrement, est-ce que quelqu'un pourrait lire notre deuxième texte, s'il vous plaît? Merci. Donc là, on est vraiment au début de la Bible. On reprend un peu ce qu'on a vu il y a 2 ans, je pense, avec explorer la Bible. Mais les 11 premiers chapitres de Genèse, c'est voilà, c'est la création, c'est la chute, c'est Cain et Abel. On arrive assez vite au déluge, tour de Babel. Et là, c'est voilà. Et puis quelque part, tout le reste de l'Ancien Testament commence au chapitre 12. Et l'histoire d'Abraham, c'est Genèse 12, 1. Donc Abraham, c'est vraiment le début du nouveau départ avec un peuple de Dieu choisi par Dieu qui fait tout le reste de l'Ancien Testament et ça tourne autour d'Abraham. Et donc il y a tout au premier siècle, parmi les Juifs, il y a toute une question, voilà, qui sont des enfants Abraham? Ça se passe sur voilà, ce texte que je viens de, auquel je viens de faire allusion. Bon, je vais le lire peut-être. Donc, après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Regarde bien autour de toi, vers le nord et vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Je te donne pour toujours tout le pays que tu vois. Je le donne aussi à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. On ne pourra pas les compter comme on ne peut pas compter les grains de poussière. Va, déplace-toi dans le pays de long en large. Oui, c'est à toi que je le donne. » Et il y a peut-être 3 ou 4 promesses comme ça à Abraham en quelques chapitres de Genèse. Donc il y a vraiment question d'enfants. Et on voit que cette question se pose au premier siècle. Qui sont les vrais enfants d'Abraham? Et donc là, Paul dézoome énormément pour dire, dès le départ, dès le reboot quelque part de l'Ancien Testament qui fait toute notre histoire de l'histoire du peuple juif, depuis ce moment-là, c'était toujours une histoire de foi. Ce n'est pas la loi, c'est la foi. Abraham y est, et ça permet à Paul de dire, finalement, cette promesse qui est là, est directement pour Jésus. On va voir un peu sa logique dans un instant. Mais, donc, il est en train de réimaginer tout l'Ancien Testament. Ça peut nous sembler bizarre. Pourquoi? Parce que dans notre propre tradition, aussi, on a une façon de lire. Martin Luther, donc, qui a créé, oui, peut-être le premier protestant, on pourrait dire comme ça, avait sa propre lecture de ce qui était l'Ancien Testament et de ce que faisaient les Juifs. Et sa lecture, c'est que les Juifs, ils croient qu'ils sont sauvés par des œuvres. Et c'est ce contraste-là qui lui a permis de comprendre le salut par la grâce. Alors, sur la deuxième partie, Luther a absolument raison. Mais la plupart des gens diraient que oui, effectivement, les Juifs ne croyaient jamais qu'ils étaient sauvés par de bonnes œuvres. Là, c'est plutôt les catholiques du 16e siècle que Luther voyait. Ils voyaient ces gens dans le peuple juif. C'était pas vraiment ça. C'était plutôt ce que j'ai dit il y a 10 minutes. C'est que nous sommes le peuple choisi. Et comment savoir qui est dans ce groupe-là? C'est par la façon de vivre, c'est par la façon de faire, d'où les pharisiens, ou, voilà, les joies, oui, pas tout de suite, les prostituées on ne compte plus, les gens qui prennent des impôts, on met de côté, mais après, c'est tout ce qu'on fait au sabbat, c'est tout ce qu'on fait dans beaucoup de règles, c'est comme ça qu'on peut voir les gens qui sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés à cause de ce qu'ils font, ils font de bonnes choses et on va reconnaître les gens par ce qu'ils font. Voilà, et donc Paul, il veut redéfinir tout ça, c'est étonnant. Juste pour dire, ce n'est pas uniquement un projet de Paul. Donc là, Jésus, ne vous mettez pas à penser, notre ancêtre, c'est Abraham. Oui, je vous le dis, vous voyez ces pierres ici, eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Okay, donc là, c'est assez souvent fait comme une certaine distance entre Paul et Jésus. Ben, Jésus, il est gentil et il parle la paix et limite bisounounours. Et Paul, il est dur et compliqué, il veut réécrire l'évangile. Là, c'est un exemple flagrant où l'idée de Paul est exactement l'idée de Jésus. Okay? Et donc, c'est pour dire que On n'est plus dans une question de race, on n'est plus dans une question de religion de mes ancêtres. C'est par la foi que Abraham a été sauvé, et c'est par la foi donc que nous faisons tout comme Abraham, notre exemple de la foi. Donc là, juste pour dire, là il y a une question de Pierre. Dieu peut faire des croyants, des pierres, il peut faire comme ça. J'ai envie de dire, et donc il peut même le faire pour nous. C'est vraiment, pour moi, le texte qui dit pourquoi on n'a pas à être fier d'être chrétienne, dans le sens où, oui, Dieu a tout fait, Dieu a tout fait en nous, il aurait pu faire ça avec n'importe qui, d'après ce texte, avec n'importe quoi, tout est vraiment par grâce. Et si on est là, c'est simplement parce que Dieu nous a choisis, Dieu nous a sauvés. Voilà, alors Paul continue dans son argument, et donc là c'est Abraham. Après, par rapport à Abraham, on va revoir un peu Moïse. Donc, rappelons-nous, Moïse, qui était là pour l'exode du peuple d'Israël, qui amène son peuple jusqu'à la frontière du pays promis. Moïse, qui reçoit deux fois la loi de Dieu, les 10 commandements, qui a dirigé son peuple pendant 40 ans, c'est de ce Moïse-là qu'on parle. Et l'argument de Paul, il est très simple, il y a la loi, c'est très bien, mais c'est quand même 4 siècles après Abraham. L'histoire commence avec Abraham, l'histoire commence avec la grâce. Il est vrai, 4 siècles plus tard, c'est la loi, les 10 commandements et beaucoup de choses, mais c'est 430 ans d'après Paul. Plus tard. Et quelque part, ce premier contrat, ça prime. Alors là aussi, je veux dire, c'est compliqué à entendre si on est juif. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ensemble, s'appellent Torah. Et Torah, on peut traduire par la loi. Et c'est vraiment ce qui définit une religion. Et on va voir dans un instant, Paul ne rejette pas la loi, mais il est en train de dire quand même, il y a une hiérarchie. Et le plus important, c'est ce que je vous ai annoncé, la bonne nouvelle de la grâce. Voilà. On pourrait aussi noter que les 10 commandements, avec la plupart de la Torah, étaient écrits dans une situation très précise. Et je pense qu'il y a un lien avec ce qui revient. Donc vous avez le peuple de Dieu, 4 siècles d'esclavage. Ils partent pour commencer une nouvelle nation eux-mêmes. Et donc, c'est très précis, c'est voilà, comment est-ce que vous allez gérer votre nation? Alors, ce n'est pas pour dire, oublions les 10 commandements, ce n'est absolument pas ce que je dis, mais il est vrai que l'arrivée de la loi est dans une situation où vous avez des gens qui n'ont pas géré leur vie pendant 4 siècles et qu'il faut donner un peu de rigueur pour qu'ils ne recréent pas Égypte en Israël. En gros, c'est l'enjeu de la moitié du Torah. Voilà. Et donc, Paul est en train de dire, la foi, c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Et puis, il continue quand même, parce que à partir de là, on pourrait dire, on oublie l'Ancien Testament, il y a des chrétiens qui le font. Ils le disent ou non, mais voilà, on ne lit plus les 3/4 de la Bible. Paul a deux choses à dire par rapport, dans ce texte, il y a deux choses à dire par rapport à la loi. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire ce texte? Donc, pour moi, il y a deux choses qui sortent de ce petit texte. Et d'abord, c'est Paul qui affirme la loi nous protège quelque part. La loi est un garde-fou. Et c'est un peu l'image qu'on va retrouver dans le prochain chapitre des parents ou des tuteurs qui sont là pour leurs enfants et qui décident pour eux et qui imposent des règles. Et c'est pour le bien des enfants. Vous avez de jeunes enfants, il n'y a pas de cadre, les parents sont absents. Typiquement, ça finit très mal, très vite. Donc, il est bien d'avoir ce cadre, il est bien d'avoir cette loi, tant qu'on n'est pas capable de prendre notre vie en main, quelque part. Donc, la loi nous protège, mais en même temps, quand on voit dans ce texte, la loi nous retient, en quelque sorte. On n'est pas libre, justement, on suit. Et c'est une certaine, voilà, Oui, ça nous limite, on est retenu, comme on a traduit là. Et en tant que chrétien, nous ne sommes plus dans cette situation-là. Donc, Jésus est venu, l'Esprit a été donné, nous sommes libérés de ça, et quelque part, l'invitation dans ce texte est de devenir des adultes en Christ, de dire, on apprécie ce qu'on a appris par la loi, on apprécie ce qu'on a appris par ce qui nous ont guidés, mais Dieu nous demande de nous mettre sur nos deux pieds et de marcher et d'être libres dans l'Esprit, ce qui est possible à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Voilà. C'est une vraie question d'identité, et quelque part, pour moi, on pourrait comprimer toute l'histoire de Galates en ça. C'est qu'est-ce que votre identité? Est-ce que vous allez être des personnes qui essayent de faire ce que la tradition demande, ce que la votre communauté demande, ce que différentes personnes vous demandent pour être à la hauteur? Ou est-ce que vous allez commencer à marcher et de suivre le chemin de Dieu, mais vous suivez avec l'Esprit? C'est un peu comme, je sais pas si vous faites du bowling, mais on peut faire du bowling avec les rails pour que, voilà, vous jetez le balle à 45 degrés, ça fait tung, 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 et vous avez un strike à la fin parce que la balle ne peut pas partir, voilà. Dans le jour que vous enlevez ça, c'est assez désolant parce que du coup, on a zéro. Mais c'est du vrai. Et je pense que c'est tout le défi pour chaque chrétien à chaque moment-là, c'est de vivre avec les rails, vivre avec les limites, c'est réconfortant, on connaît littéralement les règles, on sait comment faire. Dieu nous invite à marcher avec lui et ça fait peur. Surtout au départ, mais encore et encore, tout est à moi. Vous savez, peut-être dans mon entreprise, je forme pas mal de stagiaires, souvent en fin de licence ou en fin d'études, BTS. Et l'un des caps à passer est justement ça. C'est que, voilà, j'ai des gens qui arrivent et souvent, voilà, programmation, ils connaissent certaines choses mieux que moi. Ils ont fait tout un tas d'exercices. Et on arrive en entreprise et voilà, ce n'est plus un exercice. Il y a un problème à résoudre. Vas-y. Et aussi, ben, tu es responsable pour le résultat. Les gens vont l'utiliser si ça va. Et c'est un cap à passer. Voilà. La vie chrétienne n'est pas faire des exercices, ce n'est pas avoir une note sur 20, c'est marcher avec Dieu et voir que Dieu fait de grandes choses dans le monde à cause de nous. Et ça crée, comme je dis parfois, oui, on est dépassé par cette liberté. C'est pour ça que nous avons l'Esprit, c'est pour ça que l'Esprit prime sur la loi. Et on verra la suite dans les quelques chapitres qui nous restent. Prions.